Eman est une personne militante active au sein de l'association L'Autre Cercle, une organisation dédiée à l'inclusion des personnes LGBT+ dans le milieu professionnel. Et elle encourage les entreprises françaises à adopter des pratiques inclusives envers les personnes LGBTQIA+. Un engagement nécessaire et parfois risqué dans le climat difficile qui prévaut en France et en Europe et pas mal partout sur la planète. Bienvenue à l'émission EM.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors, M, j'aimerais te demander d'abord quels pronoms et quels accords tu utilises.
Moi, j'utilise le pronom « elle », je fais les accords masculins.
D'accord. Merci. Alors, on va essayer de ne pas se tromper, mais tu me reprends si je me trompe. Merci. D'abord, parlons de toi. On ne te connaît pas autant de notre côté de l'Atlantique au Québec, mais parlons un petit peu de ton parcours.
D'accord. Moi, j'ai une formation en politique publique. Et j'ai un peu travaillé pour l'OCDE sur des sujets LGBT+, en tant que consultant. Et par la suite, je me suis engagée à l'Autre Cercle en tant que bénévole à côté de mon travail. Donc c'est le parcours de politique publique, il en forme encore un peu ma perspective, parce qu'on travaille avec des employeurs aussi privés que publics. Mais c'est un engagement complémentaire aussi, plein de sens pour la société. Et,
justement, En quoi ce parcours? Parce que, on le sait, tu nous as dit que tu étais une personne qui utilise les pronoms « elle ». On peut présumer que tu te définis comme personne non-binaire. Et en quoi ça influence ton engagement militant envers les causes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres? C'est une bonne question.
Tout à fait. Oui, donc pour moi, faire un coming out non-binaire, ce n'était pas évident. Je me posais des questions depuis très longtemps, mais j'hésitais un petit peu comme... Je pense beaucoup de personnes socialisées femmes, on hésite à déranger, on n'a pas forcément envie de... Enfin, envie. C'est difficile d'assumer une identité qui est critiquée, qui est parfois considérée comme farfelue.
Oui, il y a des gens qui regardent cette identité comme étant totalement loufoque. Ça ne l'est pas, on va se le dire là, quand même. Là.
Oui. Ouais. Moi, j'ai eu un déclic qui est lié à un problème de santé, parce que je suis en situation de handicap et j'avais un moment d'incertitude sur l'évolution de cette situation-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de me dire, en fait, il ne faut vraiment pas vivre pour les autres, en supposant que comme on dérangera moins sans faire un coming out, la vie, elle est courte et il faut être soi-même. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là aussi que ça s'est déroulé.
Est-ce que tu permets que je te pose la question parce que je ne connais pas ta situation d'handicap? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais,
si tu es à l'aise, là.
Oui, j'ai une maladie neuromotrice. Qui fait que par de pousser, je peux avoir des problèmes de mobilité, me déplacer en béquille, etc.
Ah, d'accord.
Et en fait, ce n'est pas dégénératif, donc c'est positif, mais pendant un moment, je ne savais pas. Et juste, j'avais beaucoup de mal à marcher, je tremblais, je n'arrivais pas à faire des gestes assez quotidiennes, etc. Donc c'était un moment aussi difficile, mais de remise en question. Et après, en rétrospective, il m'a permis d'être très honnête avec moi-même, parce que parfois, c'est des moments comme ça qui déclenchent ça.
Parfois, l'adversité, ça nous aide à avancer malgré tout ce qu'on peut en penser. Donc, tu te retrouves, si on peut utiliser le terme, à l'intersectionnalité en tant que personne d'une identité différente et aussi d'une motricité différente. Mais cela, on te regarde aller, puis on voit que tu t'en sors très bien quand même.
Merci.
Alors, tu es sur la coprésidence de l'Autre Cercle, on en a parlé, Île-de-France. Quelle est cette association? Qu'est-ce qu'elle fait?
Notre raison d'être, c'est de faire en sorte à ce que l'inclusion LGBT+ fasse partie des politiques employeurs en France. Donc, on travaille avec les employeurs en France, publics, privés, de toute taille, des TPE au CAC 40, dans le secteur public, des CCAS jusqu'au ministère, pour ancrer l'inclusion LGBT+ au travail.
Alors, vous militez donc pour ces entreprises pour qu'on inclue donc ces personnes. Pourquoi c'est important de le faire? C'est encore une bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais la principale raison pourquoi les entreprises doivent inclure les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres.
Bien sûr. Déjà, c'est une dignité. A priori, pour la majorité des personnes, c'est une nécessité de participer au marché du travail, donc c'est une question de dignité. C'est une question de rendre effectifs les droits aussi, parce que la loi française prévoit que la discrimination sur base d'orientation sexuelle ou d'identité de genre est illégale. Ensuite, encore faut-il faire appliquer cela. Et il y a aussi des textes du défenseur de droits, mais les textes, c'est beau, mais ensuite, travailler ensemble avec les employeurs pour créer de bonnes pratiques, pour créer des process fluides pour cela, c'est là où on trouve notre sens.
Il y a quand même un sondage qui révèle que les entreprises qui font ça ont plus de succès, ont plus de productivité, ont plus de facilité à recruter, n'est-ce pas?
Et oui, il y a une certaine recherche autour de ces sujets-là. Oui.
Parlons-en de cette étude Ipsos, c'était Ipsos Pride, c'est ça, de 2023?
Il ouais. Y a les études sur les bénéfices de productivité, c'est d'autres études.
Mais, d'accord. Oui. D'accord. Allons-y maintenant, les solutions pour l'inclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire, surtout pour les personnes, parce que c'est une identité qui est plus difficile à comprendre pour certains, l'identité non-binaire ou gender fluid ou fluidité de genre. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut proposer des entreprises qui veulent ouvrir à ces personnes, notamment dans le recrutement, mais aussi dans le maintien et dans la facilité aussi pour ces personnes de travailler?
Déjà, on a un outil principal pour lequel on est connu aussi, c'est la charte d'engagement LGBT+, qui est un plan d'action dans le cadre duquel les entreprises s'engagent à mettre en place un certain nombre d'actions sur 3 ans. Ça, déjà, prendre un engagement public, on pourra peut-être en parler plus en détail après, mais prendre un engagement public pour la diversité, c'est la première chose à faire, je pense. Que ce soit aussi retrouvable sur les sites internet, etc. Ensuite, que le processus de recrutement soit inclusif. Par exemple, quand on marque homme, femme, de mettre un X aussi ou un D pour signaler qu'on est ouvert aux personnes non-binaires aussi. C'est déjà un signe très positif et certains de nos employeurs l'ont fait. Ensuite, dans le processus de recrutement, permettre l'utilisation d'un prénom d'usage, par exemple, pour que les personnes trans et non-binaires qui n'auraient pas encore fait de changement à l'état civil puissent utiliser leur prénom et les pronoms qui conviennent lors du processus de recrutement. C'est un très bon signe. Et ensuite, pour les personnes en place, de faire en sorte à ce que le SIRH, donc le système d'information, le système informatique des RH, permette aussi le prénom d'usage.
D'accord. Et ces politiques-là, elles sont faciles à mettre en place, surtout dans le climat actuel, parce que je vais y revenir un petit peu plus tard, mais dans le climat actuel, ça ne doit pas être facile.
Oui, enfin ça dépend, on observe une diversité de maturité sur le sujet. Il y a des employeurs qui sont très engagés, qui sont très avancés là-dessus et pour lesquels ça ne pose aucun problème. Ensuite, il y a des employeurs qui commencent sur le sujet. Là, on va prioriser les éléments à mettre en place parce qu'en effet, ça nécessite un certain effort, notamment les sujets autour d'ISIRH, ce n'est pas toujours évident tout de suite. Oui, ensuite...
Oui, non, allons-y. Donc, je parlais de ce climat et je veux ramener aussi au climat qui est imposé par les États-Unis. Il y a des politiques états-uniennes internationales maintenant qui disent si vous avez des politiques qu'on appelle EDI, équité, diversité, inclusion, on ne veut plus faire affaire avec vous. Oui. Est-ce que ça joue ça en France?
Ça peut jouer. En fonction de la situation de l'entreprise, déjà, parce qu'évidemment, il y a des filières françaises, des entreprises américaines. Ensuite, il y a des entreprises françaises, mais dont un pourcentage important de chiffre d'affaires est en lien avec le gouvernement fédéral américain, ou alors des entreprises françaises qui ont peut-être des petits contrats, mais des liens moins contraignants. Et donc, les pressions ne sont pas forcément les mêmes, les réactions non plus, mais au début, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Alors, ça a un impact, c'est sûr. Mais on est quand même un peu rassuré de voir que l'impact il semble davantage fort sur l'affichage. Donc les entreprises affichent un peu moins leurs actions diversité et inclusion. Bon, faut peut-être faire du changer les mots employés sur l'intranet, le site internet, etc. Mais quand même, dans la majorité, maintiennent le fond de l'inclusion parce que c'est basé sur une conviction. Ensuite, les entreprises qui vraiment réduiraient leur politique diversité et inclusion, on peut aussi considérer que en partie cet engagement il était peut-être pas porté par une conviction très forte.
Alors, dites-moi, on vient de passer une saison de fierté. C'était une saison qui était chargée d'émotions. Ça s'est passé comment pour toi?
Par rapport à la marche?
Par rapport à la marche, par rapport à la fierté, par rapport à tout ce qu'on vit depuis quelques années.
Ah oui, c'est très intense. Oui, pour moi, c'est. Je me dis qu'on vit dans une période historique. Après, je me dis que toutes les périodes sont historiques. Mais, et que la marche, finalement, on s'est dit ah oui, la marche cette année était quand même vachement politisée. Et après, on s'est dit finalement, nos identités sont toujours un petit peu politisées. Mmh. Donc, on s'inscrit dans la continuité de nos ancêtres LGBTQIA+. Voilà.
Et vous êtes dans cette lignée-là. J'aimerais terminer parce que vous avez, à votre organisation, vous avez publié récemment Parcours jeunes sur l'inclusion LGBTQ+. Alors, on parle des études du monde professionnel. Qu'est-ce qu'on y apprend? Et est-ce que les choses s'améliorent? On a besoin d'espoir, quelque part.
Est-ce que les choses s'améliorent? Alors, les jeunes valorisent beaucoup la diversité et l'inclusion. Ils en font un critère de choix de leur employeur. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ils sont aussi plus inclusifs, beaucoup plus inclusifs en moyenne. Ils sont plus nombreux à affirmer des identités de genre non cis. Donc, selon, justement, l'enquête Ipsos Pride que vous avez évoquée, parmi la Gen Z, on est à peu près 11% des jeunes qui revendiquent une identité de genre non cis, donc trans, non-binaire ou autre. Donc, on voit plus de liberté, plus de oui, et elles s'affirment plus dans leurs identités. Et on voit quand même, pour les jeunes, là aussi un grand besoin employeur, parce que malgré tout cela, l'entrée sur les marchés de travail, c'est un moment où on est junior par rapport au monde professionnel et qu'on voit qu'au premier contact avec le monde du travail, seulement une personne sur deux en stage ou en alternance va choisir de se rendre visible auprès de son employeur. Donc on voit beaucoup de motivation que ça leur importe, mais ensuite, encore faut-il qu'on soit à l'auteur de leurs attentes.
Ben, on va terminer là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment le bon message d'espoir à donner à tout le monde. Anne, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Merci à vous.